Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute Radio Téhéran en ce jeudi 7 décembre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. L'Angleterre sera appelée devant la justice pour des livraisons d'armes à Israël. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le président iranien Ebrahim Raisi s'est rendu à Moscou à l'invitation officielle de son homologue russe. 4 Palestiniens, dont 2 adolescents, ont été tués en Cisjordanie par les forces israéliennes. Et le secrétaire général des Nations Unies a invoqué l'article 99 de l'organisation, appelant le Conseil de sécurité à agir face à la crise israélo-palestinienne qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. C'était les principaux titres. En voici le journal. À la tête d'une délégation politico-économique de haut rang, le président iranien Ebrahim Raisi s'est rendu ce jeudi matin 7 décembre à Moscou à l'invitation officielle de son homologue russe, Vladimir Poutine. Les discussions sur les questions bilatérales, y compris les interactions économiques, régionales et internationales, notamment le dossier de la Palestine, de même que les développements à Gaza, s'inscrivent dans l'agenda de la visite d'une journée du président Raisi. Avant de partir pour la Russie, le président iranien a déclaré depuis l'aéroport de Mehrabad. Ce voyage s'effectue à l'invitation du président Poutine et dans le but de se pencher sur les questions sensibles de la région et d'élargir les relations bilatérales dans divers domaines. Les deux pays cherchent à rétablir la paix et la stabilité dans la région et ils ont une opinion commune sur les questions régionales et internationales. Le développement des secteurs énergétiques, industriels et agricoles fait partie notamment des sujets de coopération Téhéran-Moscou. M. Raisi a ajouté que les efforts immédiats visant à arrêter les bombardements, à lever le blocus au Gaza et à fournir une aide à la Palestine pour que les Palestiniens recouvrent leurs droits feront également partie des discussions qui devraient être abordées avec Vladimir Poutine. Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine a effectué un déplacement court mais stratégique aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite mercredi 6 décembre pour resserrer les liens avec ses alliés du Golfe Persique. Ces visites courtes se sont effectuées un jour avant le voyage du président Raisi. Dans la situation internationale actuelle, ce voyage peut être considéré comme allant au-delà d'une visite bilatérale et il peut être vu comme un autre signe indicateur de l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié d'hypocrisie flagrante les déclarations du gouvernement américain qui se dit inquiet quant à la sécurité du Moyen-Orient, compte tenu de son soutien sans faille à la guerre génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza assiégée. Dans un communiqué publié le mercredi 6 décembre, Nasser Kanani a réagi aux récents commentaires du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui a déclaré que Washington avait établi des contacts avec d'autres pays afin d'examiner la possibilité de former un groupe de travail chargé de protéger la sécurité de la navigation en mer Rouge. Les forces armées yéménites ont saisi un certain nombre de navires liés à Israël dans les eaux de la mer Rouge en représailles à la guerre du régime sioniste contre Gaza, soutenue par les États-Unis. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré « Contrairement aux prétentions des responsables américains, la présence militaire des États-Unis dans la région n'a jamais été une source de sécurité. Le gouvernement américain, avec ses complots et ses ingérences illégales dans les affaires des pays de la région, a toujours essayé d'assurer la sécurité et les intérêts illégitimes du régime sioniste au prix de la déstabilisation des pays de la région et de la violation des droits de la nation palestinienne. » Khamenei a qualifié les États-Unis de principales coupables des crimes de guerre commis par Israël à Gaza en raison de leur soutien inconditionnel au régime d'apartheid d'Israël. 4 Palestiniens, dont 2 adolescents, ont été tués en Cisjordanie par les forces israéliennes alors que la bande de Gaza est toujours soumise aux frappes du régime occupant. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré dans un communiqué que des soldats israéliens avaient tiré dans la poitrine de Mar Abou Bakr, 16 ans, après avoir pris d'assaut le village de Yabad, près de Jenin, mercredi 6 décembre. Abou Nasser Mustafa Riayi, 24 ans, a quant à lui succombé à ses blessures après avoir été tué dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse, lors d'un raid des forces israéliennes sur le camp situé à l'est de la ville. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a également rapporté que des affrontements ont eu lieu après l'interruption des forces israéliennes sur le camp et après qu'elles ont encerclé une maison. Plus tôt dans la journée, le ministère de la Santé avait déclaré que les forces israéliennes avaient tué 2 Palestiniens lors d'affrontements dans le village de Tamoun et dans le village voisin d'El Fara, dans le nord de la Cisjordanie. Les victimes ont été identifiées comme étant Abdulrahman Imad Khaled Bani Oda, 16 ans, et Mouat Ibrahim Zahran, 23 ans. Les forces israéliennes ont également attaqué le camp de réfugiés de Zeisha, situé juste au sud de Bethléem, blessant 3 Palestiniens, dont un grièvement, a indiqué le ministère dans un communiqué distinct. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde contre une catastrophe qui s'aggraverait à Gaza en appelant le Conseil de sécurité à agir. Invoquant un article rarement utilisé de la Charte des Nations Unies, Guterres a appelé mercredi le Conseil de sécurité à faire pression pour éviter une catastrophe humanitaire à Gaza et à s'unir pour appeler à un cessez-le-feu humanitaire complet entre Israël et les groupes de résistance palestiniens. Dans une lettre adressée au Conseil, M. Guterres a invoqué l'article 99, contenu dans le chapitre 15 de la Charte des Nations Unies. Celui-ci indique que le chef de l'ONU peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toutes les questions qui, à son avis, pourraient menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La lettre a été envoyée au président du Conseil de sécurité à New York, mercredi matin 6 décembre. Guterres a déclaré qu'il n'existait tout simplement aucune protection efficace pour les civils et qu'aucun endroit n'était sûr. Les hôpitaux sont devenus des champs de bataille, a-t-il dit, affirmant qu'au milieu des bombardements constants de toutes les parties de Gaza, et sans abri ni éléments essentiels pour survivre, je m'attends à ce que l'ordre public s'effondre bientôt complètement. Je réitère mon appel pour qu'un cessez-le-feu humanitaire soit déclaré. C'est urgent. La population civile doit être épargnée de plus grands dommages. Il a souligné qu'avec un cessez-le-feu, il y avait de l'espoir et que l'aide humanitaire peut être fournie en toute sécurité et en temps opportun. La lettre du secrétaire général des Nations Unies a provoqué la colère des responsables israéliens. Le ministre des Affaires étrangères du régime, Eli Cohen, a qualifié Antonio Guterres de menace pour la paix mondiale. Les forces armées yéménites confirment avoir tiré une série de missiles balistiques sur des positions militaires israéliennes pour soutenir la résistance de Gaza. Les forces armées du Yémen ont déclaré mercredi 6 décembre, dans un communiqué, avoir ciblé la ville d'Umm al-Rashrash, Eilat, située dans le sud de la Palestine occupée. Le Yémen poursuivra ses opérations militaires contre les territoires occupés jusqu'à ce que l'agression contre Gaza cesse, lit-on dans le communiqué des forces armées yéménites. Le communiqué indique que le Yémen continuera à mener ses opérations militaires contre l'ennemi israélien ainsi qu'à mettre en œuvre la décision visant à empêcher les navires israéliens de naviguer dans la mer d'Oman et la mer Rouge dans le but de soutenir le peuple opprimé de la Palestine. Les forces armées yéménites ont lancé plusieurs missiles balistiques et drones sur les territoires occupés par Israël depuis le début de la guerre contre Gaza le 7 octobre. Le soutien des membres du Congrès américain à cesser le feu à Gaza est bien inférieur à celui des électeurs américains, selon un sondage. 61% des électeurs américains soutiennent les appels à un cessez-le-feu permanent et à une désescalade de la violence dans la guerre menée par Israël contre l'enclave palestinienne assiégée, indiqué mardi 5 décembre Data Progress, think tank progressiste américain. Le bilan élevé des victimes palestiniennes lors de l'agression du régime sioniste contre la bande de Gaza, qui s'alourdit à présent à plus de 16 000, a plus que jamais attiré l'attention des électeurs américains. Citant le sondage dans un post sur X, la députée démocrate Rachida Tlaib, première palestino-américaine élue au Congrès des États-Unis, s'est demandé pourquoi si peu de membres du gouvernement s'étaient alignés sur l'opinion publique concernant la guerre à Gaza. Les remarques de Rachida Tlaib interviennent alors que 76% des électeurs démocrates soutiennent l'établissement d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'Angleterre sera appelée devant la justice pour des livraisons d'armes à Israël. Dans le contexte de la guerre catastrophique à Gaza, qui a jusqu'ici laissé plus de 16 000 victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, l'Angleterre a fourni au régime sioniste des armes. Cette livraison amène le gouvernement britannique devant les tribunaux, l'ONU ayant mis en garde contre un scénario encore plus infernal à venir. Soutenu par le Centre international de justice pour les Palestiniens, l'Organisation palestinienne de défense des droits de l'homme, Al-Haq, basée au Royaume-Uni, et le Réseau mondial d'action juridique, GLAN, demandent à Londres de suspendre immédiatement les ventes d'armes lucratives à Israël, affirmant qu'il existe un risque évident qu'elles soient utilisées dans des crimes de guerre. Ces groupes humanitaires ont annoncé leur soutien en justice, mardi 5 décembre, soulignant que le gouvernement britannique avait ignoré à plusieurs reprises les demandes écrites de cesser de fournir des armes à Israël en raison de graves préoccupations. Leur affaire devant la Haute Cour est centrée sur les attaques aveugles d'Israël contre des civils et des infrastructures essentielles à leur survie, la famine, les déplacements forcés et le risque de génocide, a déclaré le directeur du GLAN lors d'un point de presse. De telles livraisons d'armes mettent en question les obligations juridiques nationales et internationales du Royaume-Uni à la lumière des atrocités commises par Israël à Gaza, a noté ce responsable. Comme les autres membres de la communauté internationale, le Royaume-Uni a clairement l'obligation d'empêcher de tels crimes, y compris le génocide, et devrait immédiatement envisager toutes les mesures diplomatiques, politiques et économiques pour y parvenir, a-t-il poursuivi. Alors que le porte-parole du ministère britannique du Commerce et des Affaires avait annoncé par communiqué que son pays surveillait de près la situation dans les territoires palestiniens occupés et que toutes les licences étaient soumises à un examen minutieux et continu et qu'ils étaient en mesure de modifier, suspendre, refuser ou révoquer les licences selon les circonstances, le gouvernement britannique a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de suspendre les ventes d'armes à Israël. Et ce, malgré les critiques répétées des militants des droits de l'homme et des organismes de surveillance. Les articles 6 et 7 du traité sur le commerce des armes, dont Londres est signataire, interdisent les transferts d'armes lorsqu'il existe un risque majeur que les armes puissent être utilisées pour commettre ou faciliter de graves violations du droit international humanitaire. Mais le Royaume-Uni n'est pas le seul à vendre des armes à Israël. Plusieurs États européens ont fourni des armes et des équipements, notamment des chars, des navires et des hélicoptères, que les forces israéliennes sont désormais en train d'utiliser dans leur offensive meurtrière à Gaza.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le Comité international pour la protection des journalistes alerte sur le nombre de Palestiniens journalistes tués dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Puisque les journalistes étrangers ne peuvent pas donc se rendre dans Gaza, évidemment, c'est le seul donc journaliste qui peuvent couvrir les événements dans la bande de Gaza au risque de leur vie, car c'est dans une situation extrêmement dangereuse. Alors, cela exige une extrême urgence de mobilisation pour arrêter les crimes barbares commis par l'armée israélienne contre les Palestiniens, surtout tuant donc des journalistes palestiniens seuls sur le sol. Voilà. Alors, nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
Depuis le 7 octobre, près d'une soixantaine de journalistes couvrant la guerre entre Israël et le Hamas ont été tués, sans compter ceux qui ont été blessés ou qui sont portés disparus. Puisque les correspondants étrangers ne peuvent entrer dans Gaza, l'accès à l'information repose uniquement sur les journalistes palestiniens, mais eux aussi subissent les horreurs de la guerre. Le Comité pour la protection des journalistes alerte sur le nombre de journalistes tués par l'armée israélienne depuis le début de sa guerre barbare contre la résistance palestinienne. Plus d'un journaliste tué par jour à Gaza depuis le 7 octobre. Depuis le début de la riposte du régime criminel israélien après les attaques du mouvement de la résistance palestinienne Hamas contre l'occupation il y a près de 2 mois, au moins 61 journalistes et professionnels des médias sont morts, alerte l'association américaine Comité pour la protection des journalistes, CPJ. La journaliste palestinienne Shaima Al-Jazar a été tuée avec ses proches après le bombardement de sa maison à Rafah par Israël.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Alexandre Rouget, expert des questions internationales qui a accepté notre invitation depuis la France. Monsieur Rouget, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Un plaisir donc d'être avec nous dans l'émission Le Débat. Un grand bonjour également à Arnaud Develay, juriste international. Bonjour et merci d'être avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Très bien, ma première question va s'adresser à Alexandre Rouget qui est avec nous depuis la France. Monsieur Rouget, donc déjà le fait de ne pas permettre aux journalistes étrangers d'être présents dans Gaza, c'est un crime, n'est-ce pas ?
C'est un crime et c'est déjà un aveu. C'est un aveu de que l'on commet soi-même des crimes. C'est reconnaître que l'on va commettre des crimes puisque l'on se prémunit par avance de toute possibilité que les crimes que l'on va commettre puissent être révélés à la face du monde. Genre, si j'interdis à un journaliste de venir chez moi, c'est bien parce que j'ai des choses à cacher. Hein, si je censure par avance toute possibilité d'expression, même de communication, ça veut bien dire que j'ai des choses à me reprocher. Donc Israël se rend coupable de censure par préméditation, ce qui montre que Israël commet des crimes volontairement. Ils savent très bien qu'ils interviennent dans la bande de Gaza de manière parfaitement criminelle, non seulement illégale, mais illégitime. Et ils le montrent, ils le démontrent eux-mêmes. C'est là où la situation devient vraiment, inédite à l'échelle de l'histoire du monde. C'est qu'ils savent qu'ils sont hors la loi, qu'ils vont commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Donc, ils font en sorte que personne ne puisse le savoir, ce qui montre en même temps qu'ils vont le faire, puisqu'ils essayent de cacher par avance qu'ils en ont l'intention. Et le simple fait d'essayer de le cacher ne fait que trahir cette intention à la face du monde, qui n'a plus qu'à en tirer les conséquences qui s'imposent. Voilà.
Absolument. Maître Arnaud Develay, donc la même question à vous. Donc les journalistes palestiniens sont les seuls journalistes à avoir le droit d'être dans Gaza et les autres n'ont pas le droit d'être là. Comme a dit Alexandre Rouget, on a certainement quelque chose à cacher pour ne pas permettre aux journalistes étrangers d'être présents dans Gaza. C'est un crime, n'est-ce pas ?
Oui, c'est un crime. C'est de toute évidence une violation de la charte de Munich, hein, qui normalement devrait préserver l'intégrité physique de ceux qui pratiquent le journalisme. Et on s'aperçoit que, de toute façon, ce n'est pas nouveau que le régime d'occupation a toujours eu en sa ligne de mire le journalisme de manière générale, puisque il veut pouvoir continuer, effectivement, que ce soit à Gaza, mais aussi en Cisjordanie et ailleurs, là où il opère, là où il ambitionne de s'étendre, de commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire même un génocide, puisque après tout, si on part du principe que le génocide, dans ses éléments, contient une certaine intentionnalité qui n'est pas toujours facile à démontrer, si on met à la lumière des déclarations émises par les hauts responsables sionistes, et ce dès le début de l'opération actuelle le 7 octobre, effectivement, on peut coupler ça avec cette volonté délibérée d'éradiquer, ou en tout cas d'essayer d'éradiquer toute tentative de montrer au monde ce qui se passe, comme étant, allant de pair et établissant effectivement ce désir d'aller jusqu'au bout, tout en sachant que c'est une violation flagrante du droit international pénal.
Absolument.
Du droit humanitaire de manière générale.
Absolument. Alexandre Rouget, le fait d'interdire les journalistes étrangers sur le sol du Gaza n'empêche pas certainement les journalistes palestiniens de couvrir les événements, donc ce qui se passe réellement dans la bande de Gaza. Preuve, il y a beaucoup de martyrs chez les journalistes palestiniens, dont le Comité international de protection pour les journalistes alerte sur le nombre de tués palestiniens. Je parle bien sûr des journalistes. Que pensez-vous ?
J'en pense que vous avez employé le mot qui convient. Ces gens-là sont des martyrs, puisqu'ils font ils exercent leur métier dans des conditions qui sont celles d'un combattant en fait de première ligne, alors qu'ils sont des civils. Oui, en effet. Et ces gens-là savent pertinemment les risques qu'ils prennent. Ils savent pertinemment à qui ils ont affaire. Ils savent pertinemment qu'ils sont des cibles, peut-être même prioritaires, puisque aujourd'hui, le premier théâtre d'opération dans le monde, c'est celui de l'information et de la qualité, de la pertinence, de l'intelligence de l'information. C'est pourquoi les journalistes gazaouis sont une cible, en effet, prioritaire de l'armée terroriste d'Israël. Donc on peut dire, en effet, que ces gens-là sont des héros. Ces gens-là sont des martyrs. Je me suis rendu au Liban en 2007, après l'opération, la guerre de Tsahal contre le Hezbollah à l'époque. Et ce que j'ai vu à l'époque et entendu et vu dans le regard des gens que j'ai fréquentés à Tahrir, à Bent Jebel à l'époque, c'est bien que nous avions affaire à une véritable croisade, et que effectivement dans ce contexte-là, dès le moment où vous décidez de tenir votre place, de jouer votre rôle jusqu'au bout, effectivement vous êtes dans une logique de sacrifice. Vous savez que vous risquez d'aller au martyr. Et vous l'acceptez ou vous le refusez. Les journalistes gazaouis acceptent ce défi admirable. Et en tant que journaliste, je ne peux que leur adresser tout mon respect, toute mon admiration et tout mon chagrin et toute ma colère envers leurs proches. Et voilà, donc honneur à eux et puissent-ils ne pas mourir pour rien.
Absolument. La même question donc à vous, Maître Arnaud Develay. Le fait d'interdire les journalistes aux étrangers n'empêche pas de couvrir la vérité, ce qui se passe réellement en Palestine, et envoyer au monde entier et montrer les actes barbares de l'armée israélienne au monde entier. Que pensez-vous, je vous prie ?
Oui, c'est d'autant plus avéré que le régime d'occupation est quelque part débordé et être obligé maintenant de quelque part, on va dire, se mettre en opposition avec leurs complices américains, lesquels commencent maintenant à émettre ouvertement des craintes que si cette campagne, ce massacre répété 24 heures sur 24 se perpétue dans le temps. C'est une défaite stratégique qui s'annonce pour eux et elle est déjà en train de se profiler. C'est qu'en fait, l'information maintenant est tellement horizontalisée que le monde entier voit le régime d'occupation pour ce qu'il est et non pas pour la première fois ce qu'il a essayé de mettre en avant pendant des décennies. Et ça, c'est une défaite déjà stratégique en soi. Donc, c'est pas étonnant, effectivement, que les journalistes, et quelque part, c'est un aveu d'impuissance parce que l'information, elle est liquide et elle est déjà digitalisée, répandue, elle se répand comme de l'eau à travers les roches. Et le fait d'assassiner des journalistes. Et alors, on pourrait aussi parler de la complicité probable du Royaume-Uni, puisqu'on sait que le Royaume-Uni envoie des avions pour survoler l'espace aérien gazaoui et transmettre des informations à leur complice Boucher pour ensuite cibler des personnes de manière spécifique en utilisant des algorithmes aussi. Donc on peut penser que les journalistes palestiniens sont parmi ces cibles de haute priorité et non pas, comme ils le prétendent, la localisation des chefs du Hamas. Ça, c'est absolument ridicule. Donc c'est avant tout effectivement une tentative désespérée d'essayer de contrôler, de limiter les dégâts, mais je crois que c'est trop tard.
Oui, absolument. Et Alexandre Rouget, depuis le commencement des hostilités dans la bande de Gaza, on est témoin de la création d'un déséquilibre médiatique par les complices de l'armée israélienne et l'Israël, bien sûr, mais en vain, puisque surtout les jeunes du monde entier croient absolument tout de ce que les journalistes palestiniens disent sur le terrain. Et pas du tout les campagnes d'intoxication et des campagnes de médiation de l'Occident à l'égard des événements qui se passent dans la bande de Gaza. Quel est votre avis ?
Oui, en effet, mais c'est ce que vient de dire M. Develay, c'est que la propagande sioniste est allée tellement loin dans la stupidité, dans la bêtise, que plus personne n'accepte d'être pris pour un abruti à ce point-là. Et que le mensonge, l'aberration sont devenus tellement énormes que maintenant, effectivement, à partir de maintenant, le réflexe a été acquis de considérer a priori cette propagande, mais pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un mensonge. Avant même tout examen, il suffit de voir afficher sur un écran un logo d'une chaîne occidentale quelconque pour savoir que l'on a affaire à de la propagande, à du mensonge, éhonté, ignoble, à vomir. Et ça commence à se savoir. Et effectivement, de la part d'une population jeune qui a un peu plus de ressources, un peu plus de motivation hein, que des tranches d'âge qui sont déjà un peu plus émoussées, fatiguées, lassées par le matraquage et l'abrutissement médiatique dans les pays occidentaux, les catégories plus jeunes réagissent tout de suite et prennent le mensonge pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour une insulte permanente à la dignité humaine, et rejettent ces médias-là d'un revers de main et prennent fait et cause subséquemment pour des sources d'information alternatives qu'on peut appeler dissidentes, qu'on peut appeler comme on veut, mais qui sont des sources d'information honnêtes quant à elles, et qui prennent fait et cause pour effectivement un parti parmi les deux qui sont en présence, mais ils le font d'une manière un peu plus honnête pour le coup. Hein, je ne crois pas qu'il y ait autant de mensonges, d'hypocrisie de la part de Al Jazeera ou que sais-je. Même chez les Occidentaux, le vent commence à tourner. Il y a un observatoire européen pour les droits de l'homme, l'observatoire Euromed pour les droits de l'homme, qui a fait état de la violation de cadavres palestiniens par les Israéliens qui récupèrent des organes sur les corps des siens et leur fer vital. Ça a été constaté par plusieurs observateurs et Israël a répliqué que c'était une accusation antisémite. Donc si vous voulez, quand c'est la vérité elle-même qui devient antisémite, effectivement on peut se dire que c'est déjà trop tard en fait.
Arnaud Develay, quelle est votre réaction, je vous prie, face aux propos de M. Rouget
Oui, bah effectivement, c'est qu'à un moment donné, les faits, la vérité crue, si je puis dire, s'accumule à un tel degré, à un tel rythme, que ça devient presque contre-productif de s'arc-bouter sur une position dogmatique qui, jusqu'à présent, permettait à l'entité sioniste d'échapper aux foudres caudines de l'opinion publique. Mais maintenant, c'est trop tard. Et on voit d'ailleurs qu'un reportage comme celui justement fait par Al Jazeera récemment sur le relais presque direct des éléments de langage des chaînes israéliennes gouvernementales, je pense en cela à I24, qui est la propriété de Patrick Drahi, propriétaire du groupe Altice, qui est aussi propriétaire de la chaîne française d'information continue BFM. Mais on s'aperçoit que les Sayanis qui travaillent à BFM relaient pratiquement en temps réel ce qui est dit sur I24. Donc là, il n'y a pas d'alternative, que ce soit au niveau des invités, au niveau des traitements du sujet, tout est pratiquement, c'est radio, t'es live, essentiellement. Donc les Français sont complètement désinformés. Mais malgré cela, et encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, voilà, l'horizontalisation de l'information, cette guérilla médiatique, que ce soit par un coup de TikTok, un coup de petits clips ici et là, et des fois, vous n'avez pas besoin d'occuper l'antenne pendant des heures et des heures. Vous pouvez juste informer les gens de ce qui se passe avec des clips de 30 secondes et c'est très, très, très efficace. À l'usage de mèmes aussi, on voit aussi se développer cette technique de mèmes où on voit effectivement les Israéliens inventer des mensonges de plus en plus énormes pour essayer d'insinuer que le Hamas a commis des actes alors qu'on n'a absolument aucune preuve, aucune photo. On a encore appris récemment que soi-disant le corps d'une femme qui aurait été violée, en fait, était une photo d'une Kurde qui remonte à des années. Et en fait, les mensonges sionistes sont démontés pratiquement quasiment en temps réel. C'est-à-dire que dans les 12 heures qui suivent, voire dans les 4 heures qui suivent l'émission du mensonge initial, le mensonge sioniste est déjà complètement démonté. Donc c'est un phénomène tout à fait nouveau. Et quelque part, eux qui ont toujours pensé que l'arme médiatique était l'arme suprême, c'est une arme à double tranchant, parce que maintenant, ils n'ont plus le monopole de l'information. Et ça change tout.
Absolument. Alexandre Rouget, le fait que le monde a perdu la totale confiance d'Israël sur les différents événements et surtout dans le domaine médiatique, est-ce que là, il n'est pas temps que l'urgence d'une grande mobilisation pour arrêter les crimes barbares de l'armée israélienne contre la bande de Gaza, contre les Palestiniens et surtout contre les journalistes palestiniens?
Ah, mais évidemment que oui, ce n'est pas nouveau, mais une mobilisation virtuelle, monsieur, une mobilisation numérique, puisque en France, une mobilisation physique avec une manifestation publique dans la rue sera interdite et sera réprimée par les forces du désordre du gouvernement d'occupation sioniste en France. Je rappelle que les manifestations pro-palestiniennes sont interdites dans mon pays. Donc une manifestation, je veux bien, personnellement, je communique, je manifeste déjà, j'exprime mon point de vue, voilà, je fais mon devoir, je fais mon métier. Mais une manifestation de plus grande ampleur aura affaire en France à une répression physique. Voilà, et on sait que, comme je vous le disais encore hier, les forces de l'ordre en France, les soi-disant, enfin forces du désordre, hein, pardon plutôt, c'est-à-dire par exemple, en l'occurrence, les soi-disant compagnies républicaines de sécurité, hein, donc les CRS, sont droguées avec le captagon, hein, la drogue du djihadiste également, voilà, pour mieux faire couler le sang des citoyens français innocents qui manifestent leur point de vue de manière publique et pacifique. Donc voilà, nous avons d'un côté des pseudo-djihadistes armés et financés par l'Occident qui sont défoncés au Captagon et des forces républicaines, soi-disant de sécurité, qui sont défoncées au Captagon. Encore une fois, qui est l'ennemi de la paix et qui est l'ennemi des Français? En attendant, voilà, toute manifestation publique en France aura affaire effectivement à la répression de la dictature sioniste qui occupe mon pays. Pour l'instant, je n'y peux rien, hélas, et c'est encore comme ça pour l'instant.
Oui, Arnaud Develet, le fait de perdre la totale confiance concernant Israël, une mobilisation, alors qu'en France, les manifestations sont interdites, bien sûr, comme l'a dit M. Rouget. Est-ce qu'on peut espérer donc une grande mobilisation afin de cesser complètement les crimes barbares de l'armée israélienne dans la bande de Gaza?
Malheureusement, je partage le constat de M. Rouget. Je pense qu'en Occident, le système est en train de se braquer, de se cabrer. Et ça se voit non seulement en France avec l'interdiction des manifestations, mais aussi aux États-Unis, où on voit maintenant que des simples slogans comme celui qui porte de la rivière jusqu'à la mer est maintenant aux États-Unis considéré comme un appel à l'incitation au génocide. On a vu des espèces de commissions d'enquête au Congrès les dernières 24 heures où les provos de grandes universités américaines étaient promptés d'expliquer pourquoi elles ne mettaient pas un terme à ces manifestations estudiantines. Et alors même que selon les propos de la membre de la Chambre des représentants, il s'agissait effectivement d'appeler à la haine, d'appeler au génocide des Juifs. Donc là, on voit qu'ils en sont réduits à changer la sémantique, redéfinir les choses, et ça laisse entendre que le système est à genoux, parce que quelque part, ça ne peut pas durer, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un système qui soit prêt à réprimer ses administrés de cette sorte soit... est beaucoup de temps devant lui. Mais je pense qu'il faut aussi après être réaliste. Je pense que c'est surtout la résistance sur le terrain, là-bas, qui va faire le travail. La résistance, bien sûr, palestinienne, mais la résistance dans toutes ses composantes. La bête est certainement blessée, mais elle est loin d'être défaite. Et je pense que malheureusement, il va falloir s'empoigner à envisager une défaite militaire de ce régime, de toute façon, parce que il ne peut en être autrement. Il faut amener ces gens-là devant des tribunaux pour qu'ils soient jugés. Et il y a apparemment déjà des initiatives qui ont été entreprises dans ce sens. Maintenant, on ne peut pas penser hisser ces gens-là dans des boxes des accusés tant qu'on n'aura pas, en tout cas, réduit ce régime à... Voilà, il faut le réduire militairement.
Alexandre Rouget, quelle est votre réaction, je vous prie?
Oui, mais Monsieur Develay a raison. Les Israéliens ne comprennent que la force, ils ne comprennent que le langage de la force. Donc il faudra effectivement les réduire par la force. Donc ce n'est pas l'Occident qui le fera. Ce sera peut-être, je ne sais pas qui ce sera, je n'ai pas à m'exprimer au nom d'une puissance étrangère souveraine. Tout ce que je peux vous rappeler, puisque nous sommes sur un canal iranien, c'est que le chef de la République islamique d'Iran, M. Khamenei, a déclaré, peu après le début de l'offensive israélienne contre Gaza, que Israël allait se prendre une grosse gifle. Si ce monsieur-là se permet une déclaration semblable à ce moment-là, c'est peut-être qu'il a une bonne raison de le faire. Donc, attendons.
Voilà. Bien. Alexandre Rouget, expert des questions internationales depuis la France, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Maître Arnaud Develay, également expert et juriste international, d'avoir participé au débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des derniers versets du chapitre 47 du Noble Coran, les versets 36 à 38 de la Sainte Sourate Mohammed. Avec la lecture de ces versets, nous arriverons en fait à la fin de la sourate 47 du Livre Saint. À partir de notre prochain programme, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse du chapitre 48 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Fatr, la victoire. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu ensemble des versets du Noble Coran qui nous ont appris qu'après des avertissements lancés aux mécréants et aux hypocrites, le Saint-Coran appelle les croyants à ne pas suivre le chemin des hypocrites. Ils doivent obéir en tout et pour tout à Dieu le Très-Haut, aux messagers et aux enseignements qu'il leur apporte de la part du Seigneur. Les hypocrites disent qu'ils se soumettent à Dieu et à son messager, et également aux enseignements de la religion, mais ils commettent des actions qui le contredisent. Les croyants doivent accorder leur action avec leur dire, afin que leurs bonnes œuvres ne soient pas effacées à cause d'une insoumission à Dieu et aux messagers. Dieu est clément et miséricordieux, et il pardonne aux pécheurs leurs mauvais actes. Cependant, ceux qui ont mécru et se tournent le dos au chemin de Dieu, et qui meurent en état de mécréance, sans jamais s'être repentis, ne profiteront pas dans l'autre monde du pardon du Seigneur. Dieu le Très-Haut dit aux croyants de ne jamais faiblir et de ne pas lever les bras devant les difficultés ou les ennemis. Ils doivent savoir qu'ils sont placés à un niveau plus élevé par le Seigneur, qui ne diminuera rien de leur récompense pour leurs bonnes œuvres. La paix avec l'ennemi est bonne lorsque l'ennemi décide de cesser son animosité et de respecter les droits de la communauté des croyants. Dieu accorde gloire et dignité à ceux qui ont cru et qui font preuve de patience et d'endurance sur le chemin du Seigneur. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 36 et 37 de la Sainte Sourate Mohammed. Puis nous vous en donnerons la traduction.
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
La vie présente n'est que jeu et amusement. Alors que si vous croyez et craignez Dieu, il vous accordera vos récompenses et ne vous demandera pas vos biens. S'il vous les demandait importunément, vous deviendriez avare et il ferait apparaître vos haines. La vie dans ce bas monde n'est qu'un amusement éphémère et un jeu passager comparé à la vie éternelle dans l'au-delà. Mais si les humains se confient au Seigneur en tout et pour tout, et s'ils se soumettent à sa volonté, Dieu le Très-Haut leur accordera ses bienfaits immenses, son pardon et sa miséricorde, sans leur rien demander en échange. En effet, quand Dieu demande aux humains de donner quelque chose sur la voie de leur Seigneur, ils deviennent avares et ils manifestent le mauvais côté de leur caractère. Le problème, c'est que les humains se confient souvent au pouvoir et aux richesses de ce monde, à tel point qu'ils ne sont pas prêts à en donner pour gagner en échange la satisfaction de leur Seigneur. Pour les croyants, le monde est une route qui passe à travers des paysages pittoresques et séduisants. Beaucoup de gens oublient la destination et s'arrêtent pour s'amuser et profiter de ces paysages. Or, certains autres continuent la route pour arriver à la destination et d'y profiter des bienfaits qui ne sont pas éphémères et instables. Ces versets du noble Coran nous apprennent que les désirs passagers de ce bas monde ne doivent pas empêcher les humains d'œuvrer pour garantir leur salut et leur bonheur dans l'au-delà. Les gens qui n'ont pas foi en Dieu et ne suivent pas le chemin de la religion sont comme des enfants qui s'occupent avec des jouets, ne sachant pas que l'existence n'est pas un jeu ni un amusement. Il est nécessaire, certes, de pouvoir profiter des bienfaits de ce monde, mais il faut savoir que ce n'est pas en soi le but de la création de l'être humain. Écoutons enfin le verset 38, le dernier verset de la sainte sourate Muhammad.
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin de Dieu. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Dieu est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les nécessiteux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Dans le dernier verset de la sainte sourate Muhammad, le Saint-Coran rappelle que les biens de ce monde ne sont pas pour garder, mais plutôt pour donner. L'homme doit apprendre à ne pas être avare et à donner des biens pour obtenir la satisfaction du Seigneur. Celui qui est avare porte préjudice à lui-même, car Dieu le Très-Haut n'a certes pas besoin de la générosité de ses créatures. Ce sont eux qui sont des nécessiteux, ayant constamment besoin de la générosité du Seigneur. Ce verset du noble Coran nous apprend que l'avarice est un vice blâmable et la religion appelle les croyants à être généreux et à donner leurs biens sur le chemin du Seigneur et pour le bien-être de leurs prochains. Dieu n'a aucunement besoin de la générosité de ses créatures, mais ce sont ces dernières qui dépendent de la miséricorde de Dieu le Très-Haut. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. Nous avons terminé dans ce programme la lecture et l'exégèse du chapitre 47 du noble Coran, la sainte sourate Muhammad. À partir du prochain programme, nous commencerons la lecture du chapitre 48, la sainte sourate Al-Fatr, la victoire. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.